Une première victoire pour l'association Un cœur, une voix dans son combat pour ouvrir le corps électoral. Le Conseil d'État vient de juger recevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'association. La maire du Mont-d'Or, Elisabeth Rivière, s'est rendue sur les lieux de l'incendie de la maison à Yaoué 24 heures après les faits. La piste criminelle est privilégiée selon la gendarmerie. L'actuelle présidente de Prony Ressources, Béatrice Pierre, quitte ses fonctions demain. Cela faisait 4 ans qu'elle était à la tête de l'entreprise. Au programme festif de ce week-end, la fête de la musique qui joue les prolongations. Les îles célèbrent le Lagon et le Wadrawa et le cinéma réduit ses prix pour 4 jours. Le sport, J-2 avant le coup d'envoi des mini-jeux du Pacifique à Palau. Une première partie de la délégation calédonienne s'est envolée ce matin. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. L'association Un cœur, une voix poursuit son action pour ouvrir le corps électoral. Elle considère que le corps électoral glissant, décidé lors de la signature de l'accord de Nouméa, puis gelé en 2007 par le Parlement, est anticonstitutionnel et elle vient de remporter une première victoire dans son combat, Jean-François Baudin.
L'association Un cœur, une voix a en effet saisi le Conseil d'État qui vient de juger recevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'association. Cela signifie que la procédure va se poursuivre devant le Conseil constitutionnel qui a maintenant 3 mois pour statuer. Écoutez Raphaël Romano, le président de l'association Un cœur, une voix.
Le Conseil d'État a effectivement étudié notre question prioritaire de constitutionnalité et a estimé qu'elle était légitime à continuer et à poursuivre son processus dans les juridictions pour la transmettre au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui est la plus haute juridiction de l'État, qui, lui, va aussi déterminer si notre demande est fondée ou infondée. Et donc, aujourd'hui, le rapporteur du Conseil d'État a estimé légitime notre requête, et c'est pour cette raison qu'il a demandé à ce qu'elle soit transmise au Conseil constitutionnel, qui, à partir du 24 juin, a 3 mois pour se prononcer sur le bien fondé de notre demande et de notre interrogation qui est pour nous plus que légitime.
Le Conseil constitutionnel a donc 3 mois maximum pour rendre son avis et cela ne perturbera pas les discussions politiques qui doivent s'ouvrir à Paris le 2 juillet prochain, estime Raphaël Romano, car on n'est pas sur le même registre.
Bien évidemment que le recours est politique, mais le recours il est surtout juridique, c'est-à-dire qu'on se base sur des fondements juridiques. Il y a une mission d'élus calédoniens invités par le président Macron pour essayer de trouver un accord. Si un accord il y a, indépendamment du recours de l'association, il y aura un accord. Mais c'est un accord politique. Là, nous sommes sur des fondements et des bases juridiques. Et ce que nous souhaitons, c'est que le Conseil constitutionnel se prononce sur des fondements juridiques de droit et simplement sur l'état de droit.
Et selon l'association, la décision du Conseil constitutionnel ne remet pas en question l'organisation éventuelle des élections provinciales avant la fin de l'année. Il doit en effet rendre son avis au plus tard le 24 septembre. Il faut ensuite 6 à 8 semaines pour organiser ce type de scrutin.
Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas exprimé publiquement dans les médias. Didier Leroux était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Et il a partagé ses réflexions et ses analyses sur la situation politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, Jean-François.
Didier Leroux a été un acteur important de la vie calédonienne puisqu'il a été chef d'entreprise et président de la Fédération patronale, mais aussi élu à la province sud et au Congrès, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, fondateur et président de l'UNCT et l'un des membres fondateurs de l'Avenir Ensemble. Il a aussi été candidat à 2 reprises aux élections législatives et c'est un proche du Premier ministre François Bayrou. Il continue à suivre de près l'actualité calédonienne, mais il n'attend rien, dit-il, du sommet qui doit s'ouvrir le 2 juillet à Paris. Il n'est même pas sûr qu'il faille un accord.
Je pense qu'un accord ne sert à rien si on n'est pas certain qu'il soit respecté. Or, ce n'est pas un accord qui va empêcher un gamin de 14 ans de mettre le feu à une voiture. Ce n'est pas un accord qui va empêcher une bande de jeunes en déshérence de caillasser des voitures. Donc, je crois qu'on a plusieurs problèmes et que ces problèmes-là ne se résoudront pas forcément par un accord.
Les conditions ne sont pas réunies, selon vous, de toute façon, pour le trouver?
On ne peut pas imaginer construire un pays avec les gens qui cherchent à se venger de ceux avec qui on doit construire.
Didier Leroux a aussi été interrogé sur le projet de souveraineté avec la France proposé par Manuel Valls. Pour lui, c'est la même chose que le projet d'indépendance association de Pisani.
Pour moi, Manuel Valls est arrivé ici avec un logiciel qui avait 40 ans de retard. Le FLNKS a changé. C'est plus l'émancipation, c'est la réappropriation des terres notamment. Et d'autre part, Manuel Valls, avant de venir, il s'est entouré de mauvais conseillers. Et on peut dire aujourd'hui qu'il ne s'est entouré que d'indépendantistes. Alors on ne peut pas dire que les négociations étaient équilibrées. Il n'y avait qu'un seul groupe qui représentait les non-indépendantistes, qui sont majoritaires dans le pays, et tous les autres, y compris Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien, étaient favorables à l'indépendance association. Et dans l'indépendance association, c'est surtout le mot indépendance qui compte.
L'autre problème pour Didier Leroux, c'est que Manuel Valls a voulu commencer la négociation par le haut, alors qu'il aurait dû faire comme dans des négociations syndicales.
Dans une négociation avec des syndicats et qui a plusieurs points de revendication, vous commencez par les plus faciles, vous commencez par le bas. Ça permet de décontracter la discussion. Chacun s'exprime, dit ce qu'il veut, on négocie, on arrive à se mettre d'accord sur les points de moindre importance. Et puis ensuite, il reste les points bloquants sur lesquels, là, on peut discuter longtemps. Mais l'ambiance n'est plus forcément la même. Là, on a un groupement indépendantiste qui arrive en disant « moi, je veux bien discuter, mais la sortie, ça doit obligatoirement être indépendante. » Puis les non-indépendantistes disent « écoutez, il y a eu 3 référendums qui ont dit que les Calédoniens voulaient rester français, donc forcément on ne peut discuter que de la permanence, du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. » Comment voulez-vous que les gens, quand ils commencent une négociation comme ça, comment voulez-vous qu'ils soient capables de s'entendre et puis de passer à la suite? C'est absolument pas possible.
Et quand on lui demande par quoi il fallait commencer, il choisit une image.
Il fallait commencer par la pêche au picot. Il fallait commencer par les choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Quelle est la date d'ouverture? Quelle est la date de fermeture? La taille minimum des picots? Et puis, on remplit la besace comme ça. Et puis ensuite, on arrive à la fin. Et c'est là qu'on a besoin de garanties pour que tous les points... Il y a la fiscalité, il y a la gouvernance, il y a l'éducation, il y a les programmes scolaires, il y a la santé, il y a la protection sociale. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses dont on peut parler avant d'arriver à indépendance ou pas indépendance.
Pour Didier Leroux, il va devoir se mettre d'accord, mais cela va prendre du temps. Il se déclare néanmoins optimiste en relevant que désormais le combat pour la Nouvelle-Calédonie française se livre sur 2 fronts et non plus seulement sur le front entre indépendantistes et partisans de la France.
Il y a un deuxième front qui se joue sur le plan international. La Chine, l'Azerbaïdjan, la Russie ont décidé de s'en prendre à la France et de la déstabiliser sur ses outre-mer. Dans ce jeu-là, la défense de la France est importante et elle dépasse le seul intérêt ou le seul périmètre de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on n'est plus seul, nous les Calédoniens, à défendre la Nouvelle-Calédonie et à défendre la présence française. Parce que la Nouvelle-Calédonie n'est qu'un pion dans un combat qui consiste à combattre pour la grandeur de la France, pour son rayonnement, pour son rang dans le monde, en combattant les pays qui veulent déstabiliser ses outre-mer. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on n'est plus aussi seul qu'avant. Et que notre combat pour la Nouvelle-Calédonie, c'est pas uniquement un combat gentil canac contre méchant blanc, c'est un combat pour la présence de la France, pour la grandeur de la France, pour le rayonnement de la France et pour le rang de la France dans le monde.
Il y a en métropole des patriotes sur lesquels on peut compter, affirme Didier Leroux, qui évoque notamment les Républicains, le Rassemblement National et Reconquête. Il s'interroge en revanche sur la position de François Bayrou, dont il estime que le conseiller Éric Thiers semble plus radical que Valls lui-même. Concernant la relance économique, l'ancien patron des patrons calédoniens est formel. Il faut soutenir l'économie sans attendre et il faut donc que tous ceux qui ont les moyens d'injecter de l'argent le fassent. Il dénonce par ailleurs les transferts de compétences excessifs et l'excès de règles administratives et appelle de ses voeux une énorme simplification pour soulager les entreprises. Enfin, interrogé sur la filière nickel, il regrette le maintien de la doctrine nickel. Il rappelle qu'en 2004, la philosophie c'était qu'il fallait transformer le minerai localement, mais en 20 ans, dit-il, il y a eu d'énormes changements et nous ne sommes plus rentables.
Aujourd'hui, les usines métallurgiques ne sont pas rentables. Quand on veut transformer du minerai calédonien en mâtes, en ferro-nickel, on perd de l'argent. En revanche, quand on exporte du minerai brut directement vers l'Indonésie, vers la Chine, vers la Corée, le Japon, vers les pays qui le transforment, on gagne de l'argent. On a toujours su faire ça. Au départ, c'était comme ça. On expédiait de la terre, il y avait bien l'usine de la SLN, mais on expédiait de la terre à l'extérieur et on gagnait de l'argent. Et ça reste vrai. Sauf que il y a des gens qui ont la responsabilité sur la réglementation du nickel, qui sont restés sur le logiciel de 2004. Ils disent, non, il ne faut pas exporter de minerai brut, il faut le transformer local. C'est la doctrine nickel. Mais la doctrine nickel, elle était faite pour changer, elle doit évoluer, on n'est pas obligé de rester à la préhistoire tout le temps. Donc, aujourd'hui, on n'a pas évolué, on a des gens qui ne veulent pas qu'on exporte du minerai brut. C'est en train de changer un peu, j'espère que ça va changer. Mais avec ce minerai brut, on peut gagner de l'argent. Et avec l'argent qu'on gagne, on peut subventionner les entreprises déficitaires de manière qu'elles maintiennent les emplois.
Si on exportait du minerai, on pourrait donner les bénéfices de l'exportation des minerais bruts aux usines métallurgiques pour préserver les emplois, explique Didier Leroux, qui affirme qu'il faut mélanger les deux, l'exportation et les usines métallurgiques. Il estime également qu'il a été complètement stupide de refuser le pacte nickel.
Et vous pouvez retrouver cette interview de Didier Leroux en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Elle sera aussi rediffusée dans son intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Le FLNKS réunit demain une convention à Puebo. C'est la quatrième convention depuis le congrès de Saint-Louis en janvier dernier. Il s'agit de faire le point sur les discussions en cours et sur l'invitation du président de la République qui convie les partenaires calédoniens à participer à un sommet sur la Nouvelle-Calédonie à Paris à partir du 2 juillet. Selon nos informations, plusieurs responsables du FLNKS prendront l'avion dès samedi soir pour se rendre à Paris. Les maires aussi vont répondre à l'invitation d'Emmanuel Macron. L'Association des maires de Nouvelle-Calédonie a pris la décision de se rendre à Paris et devrait envoyer son président Florentin Dédane, maire de Puebo, ainsi que Marilyn Sinewami, maire de Marais, et de Wilfried Weiss, le maire de Koumac. L'Association française des maires a décidé hier d'envoyer également une délégation qui sera composée de son président Pascal Vittori, maire de Bouloupari, du maire de la Foix Florence Roland, ainsi que le maire de Païta, Marilyn D'Arcangelo.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le sommet sur la Nouvelle-Calédonie convoqué à Paris par le président de la République à partir du 2 juillet sera déterminant pour l'avenir. Ils sont 17% à penser qu'il ne sera pas déterminant. Voici maintenant notre question du jour. L'accord interprofessionnel qui prévoit la baisse de prix d'un certain nombre de produits de première nécessité ou de grande consommation aura-t-il, selon vous, un impact sur le pouvoir d'achat des Calédoniens? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La Fédé se félicite des premières avancées contre la vie chère. Dans un communiqué, le syndicat salue, je cite, le fait que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'inspire directement des travaux issus de notre colloque de mars 2025. L'élargissement des produits de première nécessité, l'application de la taxe croisière, la création de l'Observatoire des prix et des marges ou encore les protections de marché, toutes ces avancées sont, je cite encore, en lien avec les attentes de la population. Si ces premières étapes sont encourageantes, elles ne doivent être qu'un point de départ, annonce le syndicat dans son communiqué. Au chapitre des faits divers, un accident de la route ce matin vers 7h à Païta. Accident qui n'impliquait qu'un seul véhicule qui a fait une sortie de route sur la ligne droite de Port-Laguerre dans le sens Nouméa-Païta. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place. Le conducteur a été désincarcéré de son véhicule. Légèrement blessé, il a ensuite été évacué vers le Médipol. Une circulation alternée a été mise en place par les forces de l'ordre, ce qui a fortement perturbé le trafic pendant près d'une heure. Et nous vous le disions hier, une maison a été partiellement détruite par un incendie en début d'après-midi à Yaoué, dans la commune du Mont-d'Or. Selon les premiers éléments, le sinistre ferait suite à un cambriolage. La piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs. Karine Guajanti, directrice du groupe scolaire de Yaoué et propriétaire des lieux, a été la première à arriver sur place après l'appel de son mari.
L'alarme intrusion l'avait alerté qu'il y avait un problème. Mais comme quand on a des coupures de courant, je l'ai prévenu par téléphone. Il m'a dit, va voir si c'est juste un problème d'électricité ou si vraiment il y a un souci. Parce que nous, en fait, la dernière fois qu'on a été cambriolés, c'était au mois de novembre. Donc c'est pas vieux. On vit quand même sur le qui-vive. Moi, chaque matin, je partais en sachant que je pouvais me faire cambrioler. Voilà, donc lui a été prévenu. Et comme il travaille, lui, sur Magenta, et que moi, je travaille sur Yaoué, donc c'est moi qui ai découvert. Le feu a pris dans notre chambre. Et puis ensuite, ça s'est propagé dans toute la maison. On a des parties qui sont en cendres complets, c'est-à-dire qu'on n'est même plus capable de voir ce qu'il pouvait y avoir dans les pièces. On a des murs brûlés, et puis le salon, il est brûlé partiellement, mais enfin, brûlé quoi. Brûlé, plus après inondé de toute façon avec les pompiers. Il n'y a absolument rien à récupérer.
Malgré le drame, le couple et leurs trois filles ont repris leurs activités. Karine Guajanti souligne le fort soutien reçu depuis l'accident.
Moi, la province m'avait autorisé à santé, mais de toute façon, pour aller où ? n'ai pas d'une part où aller. Et puis en plus, surtout, je suis tellement bien entourée par mon équipe dans l'école que finalement, c'est là où j'étais le mieux. Donc oui, on a repris tout de suite le rythme normal. Et puis il y a une telle solidarité autour de nous que ça nous fait avancer, quoi. C'est impressionnant, les gens qui se mobilisent, ça nous touche à un point inimaginable.
La maire du Mont-d'Or, Elisabeth Rivière, s'est rendue sur place ce matin pour accompagner les victimes dans leur démarche. La famille sera temporairement relogée à l'hôtel avant qu'elle aille dans un logement proposé par la commune, la province sud et le gouvernement. Les élus de la commission permanente étaient réunis ce matin. Ils ont notamment rendu un avis favorable sur le projet d'ordonnance portant extension et adaptation de la loi de janvier 2024 pour contrôler l'immigration en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Par ailleurs, 3 rapporteurs spéciaux ont été désignés pour des projets de loi du pays. En bref, le gouvernement informe les usagers qu'en raison d'une rupture de stock de timbres fiscaux à compter du mardi 1er juillet, le paiement des droits s'effectuera uniquement par carte bancaire ou par espèce directement au guichet ou alors via des services en ligne selon les cas. Dans un communiqué, le gouvernement remercie les usagers de leur compréhension et les invite à anticiper leur démarche en conséquence. Et enfin, une bonne nouvelle pour les usagers de la route, les prix des carburants vont de nouveau baisser le mois prochain. L'essence sera affichée à 155,40 francs le litre, soit une diminution de 1,70 franc par rapport au mois de juin. Le diesel sera quant à lui à 135 francs, soit une baisse non négligeable de 3 francs par litre. Il est 18h passé de 2 minutes. Première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Très bonne nouvelle, le Passeport Gourmand lance sa 22e édition. Profitez de réductions jusqu'à moins 50% dans une sélection de restaurants, snacking, traiteurs, mais aussi des loisirs et du bien-être partout en Calédonie. Le Passeport Gourmand, c'est votre guide de découverte prestigieux, idéal pour les bons vivants et les gourmands du Caillou. Disponible dès maintenant en édition limitée, alors ne tardez pas, réservez le vôtre sur www.passeportgourmand.nc ou directement au bureau à Val-Plaisance. Renseignements au 25 25 02.
Chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moules, profitez du kilo de frites pour 100 francs de plus, soit le tout à 1090 francs seulement. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans vos 4 magasins à Pogoti, Magenta, Faubourg et Vata. Maison Thirier, goûtez, ça change du surgelé.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Info soir, Léana Colombo.
Le gouvernement poursuit son travail autour du projet de relocalisation des opérations d'Air Calédonie de Magenta vers la Tontouta. Et Jean-François Baudin, il annonce aujourd'hui la constitution officielle d'un groupe de travail dédié à ce projet.
Un groupe de travail qui est constitué de représentants des institutions, des directions des entreprises, des partenaires sociaux et d'experts techniques. Et il aura pour mission d'évaluer les conditions de réalisation du projet, d'en identifier les impacts et d'en définir les scénarios de mise en œuvre. Ce groupe de travail poursuivra plusieurs objectifs, écrit le gouvernement. Favoriser une approche partagée du projet entre toutes les parties prenantes, identifier les conditions nécessaires à la réussite du transfert d'activité, évaluer les impacts techniques, sociaux, économiques et environnementaux et enfin proposer un cadre de mise en œuvre progressif, cohérent et réaliste. Un comité de pilotage sera également désigné pour regrouper les interlocuteurs décisionnaires et assurer le suivi stratégique et politique du projet dans le respect des équilibres institutionnels, indique le gouvernement, qui ajoute que les premières réunions seront engagées dans les prochains jours avec pour ambition de dégager rapidement des pistes d'action claires pour une mise en œuvre avant la fin de l'année 2025.
Et du changement à la tête de Prony Ressources, l'actuelle présidente Béatrice Pierre quittera ses fonctions demain après 4 années à la tête de l'entreprise.
Annonce faite par voie de communiqué, Béatrice Pierre a pris ses fonctions de directrice en décembre 2021. Sous sa présidence, l'entreprise a, je cite, amélioré ses performances en matière de santé et sécurité, renforcé ses liens avec les communautés, réalisé des records historiques de production et et engager un processus de reprise. La nomination du nouveau président de Pronier Resources, qui aura pour objectif d'accompagner l'entreprise dans son développement stratégique, est attendue très prochainement.
Et la CMA rend public son bilan d'activité 2024, une année riche en actions dans une période économique mouvementée pour les 10 778 entreprises artisanales du territoire, Charlotte Coulson.
Avec un accent mis sur la réactivité, l'écoute et la proximité, la Chambre de métiers et de l'artisanat a pu intensifier ses missions d'appui en 2024. Ainsi, près de 4 200 artisans ont été accompagnés sur des sujets allant de la création d'entreprises à l'économie circulaire. La CMA a également poursuivi son activité de formation des jeunes avec plus de 284 alternants formés malgré la destruction en mai des locaux de son centre de formation de l'artisanat de Nouville. Selon la présidente de la Chambre, Elisabeth Rivière, ce rapport d'activité est donc témoigne donc d'une mobilisation collective.
La CMA a dû se mobiliser, pas seule avec l'ensemble de ses équipes, mais surtout travailler encore plus avec notamment les organisations patronales, les institutions, les communes, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les différentes provinces. Vous savez aussi que notre centre de formation a été réduit à néant et il nous a fallu aussi rebondir pour permettre à plus de nos 250 jeunes de pouvoir retourner dans un centre de formation. Je remercie l'ensemble des institutions qui nous ont mis à disposition des équipements gracieusement et aussi les entreprises qui ont mis leurs ateliers à disposition pour que les formations se poursuivent.
Une réorganisation interne de la chambre consulaire a également été opérée pour rationaliser son offre de services et ainsi s'adapter aux besoins des artisans locaux.
Bonne nouvelle pour le tourisme. L'avis voyageur de l'Australie abaisse son niveau d'alerte du niveau 3 au niveau 2 pour une partie de la Nouvelle-Calédonie. Cela concerne les îles Loyauté, l'île des Pins et la côte ouest. L'ensemble du territoire est donc maintenant placé sous vigilance 2 qui indique aux voyageurs de faire preuve d'une grande prudence lors de leur visite en Nouvelle-Calédonie. Le carénage du Betitchou a débuté ce matin. Le navire a été mis en cale à Nouville. Cette remise en forme technique est indispensable pour maintenir la sécurité à bord et pour préparer les prochaines rotations. Ce carénage se déroulera jusqu'au jeudi 10 juillet inclus. Les trajets reprendront donc le vendredi 11 juillet sous réserve de l'avancée des travaux. Pendant cette période, les agents Betitchou adaptent leurs horaires d'ouverture. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du Betitchou. Passons maintenant à l'agenda culturel du week-end et ça commence avec l'édition 2025 de la Fête de la Musique qui animera demain le centre de Païta, Charlotte Coulson.
Et après les communes de Nouméa, de Dimbéa et du Mont d'Or le week-end dernier, c'est le marché municipal et le doc socio-culturel de Païta qui accueilleront les musiciens de la commune et d'ailleurs ce samedi. Un événement organisé par la mairie de Païta en hommage aux musiciens Lionel Païta et Jean-Luc Maringo et qui sera proposé en deux temps. Les précisions avec Antoine Romain, le directeur de cabinet de la mairie.
Tout va se dérouler dans le centre du village avec deux sites séparés. Il y a une partie qui commence à 8h qui se passera sur l'espace du marché municipal avec évidemment des stands de l'artisanat, stands de restauration, mais également des animations musicales tout au long de la journée, en tous les cas jusqu'à 16h. Et puis à partir de 9h cette fois-ci, mais du côté du doc socioculturel, là aussi il y aura des stands. Il y a évidemment alimentation, il y a évidemment tout ça. Et puis il y a le cœur du réacteur, je dirais, la vraie fête de la musique qui se passe dans la salle du doc socioculturel avec là de l'animation musicale, un tremplin des jeunes et puis tout au long de la journée jusqu'à 18h30, des groupes qui vont se succéder, des groupes de Païta, des groupes du Grand Nouméa, avec tout type de musique, du jazz, du blues, du rhythm and blues, du kaneka, de la musique tahitienne, de la musique fidjienne, et quelques hommages à des artistes de la commune. Voilà ce qui est prévu pour le programme de cette fête de la musique.
Et la fête de la musique, c'est donc à partir de 8h demain au marché municipal, et puis à partir de 9h au doc socio-culturel de Païta.
Musique également demain au Conservatoire des Arts de Nouvelle-Calédonie.
C'est la troisième édition du festival Trompette sous les étoiles qui animera demain après-midi le Conservatoire des Arts de Nouvelle-Calédonie. Petits et grands pourront profiter d'un programme varié à partir de 15h. Au programme, plus de 50 musiciens réunis autour de la musique funk, électropop et latino dans l'auditorium. Et pour les enfants, il y aura aussi des ateliers de fabrication d'instruments avec matériaux de recyclage dans le jardin du conservatoire et des initiations au cuivre en salle de musique.
Dans un autre registre, le salon équilibre libre et bien-être se déroule ce week-end à la Maison des Artisans de Nouville.
Une 10e édition qui a pour but de se reconnecter à soi, explorer des pratiques holistiques, à rencontrer des pros du bien-être et découvrir des alternatives naturelles. Plus de 60 exposants vous attendront demain et dimanche 29 juin de 9h à 18h.
À Nouméa, toujours un marché artisanal est proposé demain de 9h à 18h au complexe de la promenade à Lansvata. Et puis la place des Cocotiers sera elle aussi animée. Le festival Calédonie plus 687 s'y tient demain. Une journée d'animation pour célébrer la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tchibaou. Ce sera de 9h à 17h. Et puis on termine avec un tour du côté des îles Loyauté où plusieurs fêtes ont débuté ce matin déjà, Charlotte.
Et du côté d'Ouvéa, c'est bien sûr la fête du Lagon qui animera l'île. Au programme de cette 16e édition, le Trail Air Calédonie d'Ouvéa qui se déroule demain, ou encore des concours, des conférences et des débats sur les enjeux de conservation du lagon. Rendez-vous à la tribu de Mouly jusqu'à ce dimanche. Et à Marais, c'est la fête du Wadrawa qui se déroule à la tribu de Pénélo, un événement où l'igname des chefs est à l'honneur. L'occasion de découvrir les différentes variétés d'igname ou encore l'artisanat local jusqu'à dimanche. Et on finit à Lifou, où le district du Wetch organise depuis ce matin déjà une mini-foire à Wanaham sur le site Oukeneso. Le comité organisateur propose 3 jours de rencontres, de valorisation des savoir-faire locaux, d'expositions artisanales et agricoles, des animations pour les petits comme pour les grands.
Merci Charlotte Coulson. Toujours dans l'actualité festive, la fête du cinéma débarque en Nouvelle-Calédonie. Pendant 4 jours, du 29 juin au 2 juillet inclus, l'entrée du Ciné City et du cinéma de Dumbéa sera à seulement 600 francs. C'est la première fois que cet événement est relayé sur le territoire alors qu'il existe depuis de nombreuses années en métropole. L'occasion pour de nombreux Calédoniens de renouer avec le plaisir du grand écran, explique Douglas Hickson, responsable du Ciné City à Nouméa.
Nous avons décidé de le faire pour pouvoir redonner envie aux Calédoniens d'aller au cinéma. Le cinéma, souvent, on l'oublie un peu et c'est quand on y va qu'on passe une bonne séance, qu'on a envie d'y retourner. Quand on n'est pas allé depuis un certain temps, on oublie un peu le plaisir du cinéma, de la salle obscure et du plaisir qu'ont les enfants, du plaisir qu'ont nos aînés aussi de sortir au cinéma. Alors je dirais à tout le monde, bah écoutez, c'est l'occasion, jetez-vous à l'eau, allez voir un film que vous hésitiez à voir ou que vous n'auriez peut-être pas vu et renouer avec le plaisir du cinéma. Il y en a pour les petits, pour les grands, pour ceux qui aiment les films américains, ceux qui aiment les films français, donc très très variés.
L'offre est valable sur l'ensemble des films hors séance VIP. Un supplément de 300 ou 500 francs sera donc à ajouter. Toutes les informations et la programmation sont à retrouver sur les sites internet respectifs des cinémas. C'est aujourd'hui la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Cette fête catholique est célébrée dans les paroisses du territoire. Elle donnera lieu demain à un pèlerinage de 17 km à Lifou depuis la tribu de Natalo jusqu'à celle de Roanono, explique Jean-Charles Tocotoco, membre de l'association paroissiale catholique de Roanono.
Comme le saint patron, c'est le Sacré-Cœur de Jésus, la petite chapelle de Roanono, on marque sa fête. Quoi. Comme la paroisse de Bourailleux, la paroisse de Médou à Marais... On marque ça sur 3 jours. On aura la messe à la chapelle de Roanono, puis après nous aurons une temps d'adoration pour finir la soirée. Samedi matin, on se retrouve à 5h devant la chapelle de Roanono, où les pèlerins qui désirent se rendre sur le lieu du pèlerinage, parce qu'on organise une marche comme la chapelle de Roanono. Elle a été construite par le frère César à l'époque, et le frère César est originaire de Natalo. Il avait l'habitude de faire le chemin par le rivage, partait de Natalo, et il se rendait sur Roanono. Donc, en partant de Kaigne, en passant par le bord de mer, devant Chiolé, devant la tribu de Kirinata, après on passe devant la tribu de Oshila, pour arriver enfin à la tribu de Roanono. Et à 19h30, on prévoit une veillée avec les jeunes qui ont été au rassemblement athénée. Une petite veillée d'une heure, pour finir la belle journée qu'on aura passée.
Le départ du pèlerinage est prévu à 7h demain à la tribu de Natalo pour rejoindre, je le rappelle, l'église du Sacré-Cœur de Jésus de Roanono.
RMB 18h14.
L'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie lance un appel aux dons. L'état des stocks de certains groupes sanguins est critique. Le président de l'AEDS BNC, Lilian Morer, appelle les Calédoniens à se mobiliser.
On est en situation critique pour 2 groupes. Le O+ et le A+, et on est dans une situation presque critique pour le O négatif. En l'état des stocks, on a quelques jours effectivement de stock, mais voilà. Si les stocks ne sont pas reconstitués rapidement la semaine prochaine, ça va commencer à être assez critique pour certaines situations. si nos donneurs et si de futurs donneurs ont de la disponibilité la semaine prochaine pour aller au don du sang à Nouméa. Tout le monde peut le faire a priori, il faut se rendre au centre de don du sang ou prendre rendez-vous sur internet, l'adresse est dondusang.nc. A priori, si on est en bonne santé et qu'on est motivé pour aller donner, il n'y a pas de raison.
Le centre de dons est situé à l'entrée de la ville à côté de l'ancien CHT Gaston Bourré. Il est ouvert du lundi au jeudi de 7h15 à 14h et le vendredi de 7h15 à midi. Il est 18h15, on va marquer une seconde pause avant de passer au sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal et c'est du sport, Léana Colombo.
Et on ouvre notre agenda des sports du week-end avec du rugby puisqu'il y a dimanche matin la finale du top 14, Jean-François Baudin.
Le coup d'envoi sera donné à 6h05 et ce sera un remake de la finale de l'an dernier. Le Stade Toulousain sera opposé à l'Union Bordeaux-Bègles. Cette saison, les deux équipes se sont affrontées à 3 reprises et c'est l'UBB qui s'est imposé à chaque fois. Les Bordelais, après avoir remporté la Champions Cup, vont tenter de réaliser le doublé. De leur côté, les Toulousains tenteront, eux, de conserver pour la 3e année consécutive le bouclier de Brennus. Une finale à haute intensité à suivre dimanche matin, donc dès 6h05.
Les sports mécaniques, maintenant avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
11e manche du championnat du monde, les pilotes sont en Autriche sur le circuit de Spielberg.
Le circuit de Spielberg, renommé aussi depuis 2010, Red Bull Ring, un Grand Prix d'Autriche remporté l'an dernier par le Britannique George Russell sur Mercedes. Il avait devancé Oscar Piastri sur McLaren et Carlos Sainz sur Ferrari. Cette année, c'est un week-end brûlant qui attend les pilotes. L'Autriche connaît un épisode de forte chaleur et les écuries vont devoir composer avec une température sur la piste très élevée. Les essais libres auront lieu dès ce soir, les qualifs demain soir et le Grand Prix, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi à minuit.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Sport mécanique, toujours avec du rallye et de la moto, Jean-François.
Alors, on va commencer par la MotoGP. Ce sera aux Pays-Bas, sur le circuit d'Assen, circuit apprécié par le Français Fabio Quartararo, qui s'était imposé en 2021 et avait terminé quatrième en 2023. La Sprint Race aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à minuit et le Grand Prix, ce sera dimanche soir à 23h. Et puis en rallye, Sébastien Ogier, Ott Tanak, Thierry Neuville et les autres sont en Grèce ce week-end pour le rallye de l'Acropole. 17 spéciales sont au programme d'ici dimanche soir.
Et puis un mot de basket, on suivra la demi-finale de l'Euro au féminin entre la France et l'Espagne. Coup d'envoi la nuit prochaine à 1h30 du matin. Dans l'autre demi, la Belgique sera opposée à l'Italie.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et J-2 avant le coup d'envoi des mini-jeux du Pacifique. Une première partie de la délégation calédonienne s'est en effet envolée pour Palau.
Elle comprend une vingtaine d'athlètes, des nageurs, des pongistes, des athlètes handisport et volleyeurs. Ils sont accompagnés par Christophe Dabin, le président du CTOS, Michel Quintin, le directeur du CTOS et Marion Roumagne, chef de mission. Ils ont tous décollé de Tontouta ce matin aux alentours de 8h30. Un long périple d'environ 16 heures de vol avec des arrêts à Sydney puis à Taipei avant d'arriver à Koror, au Palau. Un voyage qui forge l'esprit d'équipe selon Moïse Kalemou, le président de la Ligue calédonienne de volley, a accompagné les athlètes à l'aéroport ce matin.
Ils sont bien partis sur le départ d'une aventure. Ça permet aussi de se fortifier individuellement et collectivement. Ils ont le temps d'échanger pendant le voyage et aussi le mérite d'arriver sur Palau. Et ça forge l'athlète, ça forge la cohésion de passer des heures d'attente et d'arriver enfin sur Palau et d'aller chercher la compétition et aller chercher les médailles. Quoi.
La cérémonie d'ouverture de ces mini-jeux du Pacifique à Koror à Palau aura lieu dimanche à 20h heure de Nouméa. Elle sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube Pacific Midi Games 2025.
Page spécial mini-jeu du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Le sport sur le territoire avec du rugby ce soir. La finale de la Coupe de Calédonie à 10. Le rugby club Mondor sera opposé dès 19h30 au rugby olympique de Nouméa. Une finale qui se jouera au stade Philemo Simutoga de Rivière-Salée. Et demain, place au football, Jean-François.
Avec la 6e journée de Super League, la première de la phase retour et 4 matchs au programme, dont 2 duels au stade Numanélé entre les leaders et leurs dauphins. Dans le groupe A à 15h, Gaïcha défiera Tigasport. Puis dans le groupe B à 17h30, l'Ossi en train de prendre sa revanche sur l'AS Magenta. Avant cela, à 13h au Mont d'Or, l'AS Cougnier sera opposé au CA Saint-Louis. Enfin, à 15h du côté de Yengen, Yengen Sport affrontera l'AS Mont d'Or.
En futsal, deuxième journée de Super League avec 9 matchs au programme ce week-end. 2 matchs demain à Wailou, puis 5 dimanches à Nouméa et 2 du côté de Koné. Et puis, dans le reste des rendez-vous, demain, un trail à Ouvéa, la backyard de Nouméa et les courses hippiques à la fois.
Oui, ce sera la 3e réunion hippique de la saison après Bouraille et Boulou Paris. 6 courses sont au programme demain sur l'hippodrome Banu de La Foy. La première course s'élancera à partir de 16h. Autre rendez-vous sur un hippodrome demain, ce sera à Nouméa avec la backyard. 100 participants seront au départ dès 7h de cette course d'endurance à élimination. Ils devront parcourir chaque heure 6,7 km. Le vainqueur est le dernier ou la dernière à accomplir un ultime tour en solitaire. Les trailers, eux, avaient le choix ce week-end puisqu'en marge de la fête du Lagon à Ouvéa est organisé le 2e trail Air Calédonie. 3 parcours au choix, le Grand Raid de 20 km, le midi raid de 10 km et le parcours familial de 3 km. Grande nouveauté cette année, les coureurs seront les premiers à franchir le nouveau pont de Mouly.
Merci Jean-François Baudin. Et avant de refermer ce journal, Radio Rythme Bleu a fait un nouvel heureux, ou plutôt une nouvelle heureuse, puisque Alexandra, auditrice de Païta, a remporté notre grand jeu chance. Son SMS a été tiré au sort en début d'après-midi et elle a gagné un Samsung S25 et son support aimanté pour la voiture. Un cadeau d'une valeur de 110 990 francs. Écoutez sa réaction en apprenant la nouvelle.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est Alexandra.
Oui, c'est moi.
Bonjour Alexandra, c'est Charlotte de Radio Rythme Bleu. Est-ce que vous avez une idée de la raison de mon appel ?
Oui, mais c'est moi ce matin, je vous ai envoyé un message. J'ai gagné le S25, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, vous avez gagné le Samsung S25.
Ben écoutez, c'est formidable parce que c'est un S7 Edge. Du coup, il commençait déjà à rendre un peu l'âme.
Bon, ben c'est parfait alors.
Je vais le faire bientôt, je leur avais dit ça tout, c'est passé le mot que je voulais un téléphone. Écoutez, c'est très gentil. Oh, je suis trop contente. Oui, c'est super, merci beaucoup. Passez une bonne journée, un bon week-end et restez comme vous êtes, surtout tous, parce que c'est vraiment génial.
Et voilà encore toutes nos félicitations à Alexandra qui a remporté ce superbe téléphone offert par Mobilemania. Et restez attentifs car demain, nous vous dévoilerons le nouveau lot qui sera à remporter. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit sur l'Est, le ciel se dégagera. Les loyautés garderont également de belles éclaircies. Sur les autres régions, les nuages resteront nombreux avec des pluies ou averses. Le vent de sud-sud-est à sud-est continuera de se renforcer. De 15 à 20 nœuds en général, il dépassera parfois les 20 nœuds sur le nord-ouest et la pointe sud en cours de nuit. Il restera plus faible aux loyautés avec 10 à 15 nœuds. Les températures minimales seront élevées, de l'ordre de 17 à 22 degrés. Demain matin, le ciel restera bien nuageux avec des averses sur le sud-ouest. Ailleurs, le ciel s'imposera même si les nuages gagneront du terrain au cours de la matinée. L'alizée de sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds sur l'est et les loyautés et entre 15 et 20 nœuds ailleurs, voire autour de 20 nœuds, ce sera sur le nord-ouest.